Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Deux silhouettes se détachent de la dense forêt amazonienne. Ils affichent de larges sourires au-dessus de leurs mains jointes, comme l'a noté Bruno Meyerfeld, correspondant du Monde au Brésil. Les photos d'Emmanuel Macron et de Lula ne sont pas sans rappeler une répétition de mariage, et pour cause, il s'agit d'une véritable cérémonie. C'est la première fois que le président français se rend en Amérique latine depuis son élection pour une rencontre bilatérale. Alors que leurs différences s'accumulent sur les questions géopolitiques, quel type de partenariat Emmanuel Macron entend-il nouer avec Lula? Bonjour Christophe Ventura.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et responsable du programme Amérique latine et Caraïbes. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi le Brésil pour sa première rencontre bilatérale en Amérique latine?
Bah, ça fait très longtemps en fait que cette rencontre était dans les cartons, si je puis dire, dans les tuyaux, notamment depuis la campagne électorale brésilienne, lorsque Lula était venu à Paris en 2021, donc ça remonte à quelques années déjà. Lula avait été reçu par le président Emmanuel Macron en grande pompe à l'Élysée, alors qu'il n'était que candidat. Et Emmanuel Macron, c'était le contexte à l'époque de son grand conflit, sa dispute avec Jair Bolsonaro, et déjà à l'époque, l'idée de la venue de Macron au Brésil avait été largement évoquée, et depuis ce moment-là, les choses se sont préparées peu à peu. Il y a toute une chronologie. Alors pourquoi? Bah parce que le Brésil, bien sûr, c'est la puissance régionale majeure latino-américaine, et parce que les intérêts français y sont assez conséquents, voire multiples. Et d'ailleurs, la visite d'État, qui est la première en fait, d'un chef d'État français depuis 2013, ça faisait 11 ans qu'il n'y avait pas eu de visite d'État d'un chef d'État français au Brésil. Dernier, c'était François Hollande, qui était allé deux fois. Eh bien, vu ce qu'on voit aujourd'hui pendant ces trois jours de visite, on comprend que la relation bilatérale franco-brésilienne est quand même assez dense en matière de coopération économique, commercial surtout.
Pourquoi justement, quels sont les liens entre la France et le Brésil sur le plan commercial? On sait qu'il y avait, par exemple, un groupe de supermarchés français qui était présent, Casino, mais ça s'est mal passé pour lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui?
Bah écoutez, d'une manière générale, c'est un marché émergent, enfin très important pour la France. Il y a l'essentiel des entreprises françaises dans beaucoup de domaines, ils sont très implantés. J'entends dans le domaine de l'énergie au sens large du terme, énergie propre, j'y reviendrai d'ailleurs, dans le domaine industriel, du luxe, des services, enfin les entreprises françaises sont très présentes au Brésil, à tel point que c'est vers ce pays que se dirige, c'est l'un des pays vers lesquels se dirigent le plus les investissements directs étrangers français dans le monde, et en tout cas dans les marchés émergents, certainement. Il y a ça d'une part, il y a beaucoup de coopération dans les domaines militaires, on le voit là, d'ailleurs il y a des accords de coopération, et il y a eu le baptême d'un nouveau sous-marin franco-brésilien qui a été fait hier sur place en présence des deux présidents.
Franco-brésilien, c'est-à-dire qu'il y a une coopération, il va être produit par les deux pays?
Alors en fait, il y a un programme qui a été signé, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, figurez-vous, et de Lula déjà, c'était en 2008, je crois, eh bien un accord militaire qui porte sur une coopération, sur la fabrication de 5 sous-marins brésiliens, franco-brésiliens. Pourquoi franco-brésiliens? Et c'est là parce que c'est un peu innovant et ça montre cette relation sur ce domaine-là, parce qu'en fait, c'est des sous-marins qui sont fabriqués au Brésil par les Brésiliens, mais qui sont accompagnés et formés en fait par l'ingénierie française, avec un niveau de transfert de technologie notamment assez important, pas assez du point de vue brésilien, mais enfin quand même assez important, et qui permet aux Brésiliens d'être plus autonomes et indépendants sur ce domaine ultra sensible de militaires et des sous-marins conventionnels. Et derrière ça, il y a aussi un projet, et c'est ça qui est discuté aujourd'hui, de transfert de technologie sur l'accompagnement sur le nucléaire civil. Pour le Brésil. Le Brésil veut du nucléaire civil, il ne veut pas de nucléaire militaire, et la France est l'un des partenaires avec lequel il essaye d'aller plus loin dans sa maîtrise de la filière. Et voilà un exemple de cette coopération franco-brésilienne.
Pourquoi le Brésil veut-il se doter d'une armée forte avec des armes aussi sophistiquées que ce type de sous-marin, Christophe Ventura?
Bah, le Brésil est est une puissance, donc il en a les atours, il en a les caractéristiques, et parmi celles-ci, la composante militaire, bah, évidemment, elle est centrale, elle est importante. Alors le Brésil, lui, se positionne comme une puissance qui vise à voir la chose militaire, non pas comme, disons, un domaine d'agression ou de projection sur d'autres pays, mais disons, d'une tradition plus de défense nationale, de sécurité du territoire. Et également, et c'est là où on en revient à la question de la puissance du Brésil, de faire démonstration qu'il est capable, comme de grande puissance, de pouvoir participer à des actions conjointes sous l'égide de l'ONU, ce qu'il avait fait d'ailleurs en Haïti il y a quelques années, de montrer qu'il peut prendre en charge et commander des groupements militaires multinationaux, et ça, dans le multi-opérationnel, dans le domaine militaire, tout ça sont des choses qui vous positionnent comme une puissance, comme un pays qui est capable de jouer un rôle au niveau international, et c'est l'objectif que poursuit le Brésil, bien évidemment.
Alors, je l'ai dit en introduction, il y a malgré tout des divergences sur le plan diplomatique. Alors, par exemple, sur la question israélo-palestinienne, où le Brésil a voulu, en quelque sorte, prendre la tête ou devenir l'un des pays les plus importants dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Global South, le Sud global. Quelle est la stratégie que poursuit le président Lula à cet égard, et pourquoi cela pourrait créer des divergences avec la France, si vous êtes d'accord sur ce constat, Christophe Ventura?
Alors, il y a plusieurs choses. D'une manière générale, je dirais que la stratégie diplomatique du Brésil, elle ressemble à celle d'autres grands pays du Sud global, comme vous dites, qui est un terme d'ailleurs qui mérite d'être manié avec prudence, parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité au sein ce groupe qu'on évoque, même s'il nous dit quelque chose un peu des nouveaux rapports internationaux entre les pays du Sud et les pays, les puissances occidentales. Mais la stratégie du Brésil, c'est celle d'un pays qui considère aujourd'hui que il doit avoir des relations avec tout le monde. C'est ce que ne cesse de dire Lula. Le Brésil veut parler à tout le monde, et il n'y a pas, disons, de logique affinitaire qui doit empêcher un pays comme le Brésil aujourd'hui de développer sa stratégie diplomatique mondiale pour obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire plus d'autonomie, d'indépendance, et également des niveaux plus élevés d'industrialisation et de maîtrise technologique dans beaucoup de domaines économiques, pour asseoir sa souveraineté et pour affirmer ses intérêts nationaux sur la scène internationale. C'est ça sa stratégie, et donc c'est une stratégie qui vise à parler à tout le monde, sans exclusive, et donc le Brésil ne veut pas choisir et ne veut pas se faire entendre dire qu'il doit choisir pour des motifs idéologiques, eh bien, entre les États-Unis, le Nigeria, la Russie, la Chine, la France, ou l'Inde, ou l'Espagne. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ce que Lula tente de faire. Et pour ce faire, eh bien, il a besoin de marquer des positions fortes. Et nous en venons au dossier de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. La position du Brésil, là aussi, vu d'Europe, ça peut un petit peu surprendre, surtout quoi, avec le choc des mots qui ont été prononcés il y a quelques semaines, etc. Mais pour les Brésiliens, et je dirais pour la plupart des pays du Sud, pour le coup, le conflit israélo-palestinien, c'est d'abord un conflit colonial. C'est d'abord vu comme une question d'un conflit colonial qui n'est pas réglé et qui bafoue, en fait, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'autodétermination des peuples. Et on parle de pays qui ont vécu et qui viennent, disons, d'une histoire de pays qui ont été anciennement dominés et colonisés par les puissances occidentales. Et c'est ça qui est la matrice, le logiciel de la position de ces pays-là. Et je crois que Lula assume parfaitement le fait peut-être d'être moins en cours dans certaines chancelleries des pays occidentaux. Mais aujourd'hui, il se positionne comme un leader des pays du Sud. Et en fait, il veut montrer que si en Israël, il y a un dirigeant comme Monsieur Netanyahou, eh bien au Brésil et dans les pays du Sud, Lula s'oppose à lui dans ce conflit. Et aujourd'hui, on entend souvent dire que le Brésil perdrait sa position de médiateur dans ce conflit. En fait, aujourd'hui, le Brésil, il se positionne surtout comme un pays qui est un peu porte-voix et porte-parole d'un nombre très conséquent de pays dans le monde sur ce conflit.
Bien sûr, alors ça, on le voit. Pourquoi le choix de ce conflit et pas d'autres conflits avec des questions de colonisation, je ne sais pas, en Chine, ou alors avec des questions liées à des revendications de territoire au Kurdistan, ce type de lieu?
Bah, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que, comme d'autres pays et d'autres diplomaties, la réalpolitik s'invite bien sûr dans les positions de principe. Comme je disais, le Brésil a de très bonnes relations, de bonnes relations avec la Chine, par exemple, qui est même son premier partenaire commercial depuis quelques années, ce qui est évidemment pour le Brésil absolument fondamental. On pourrait parler même du conflit ukrainien. Il est clair que le fait que la Russie, garantit au Brésil à peu près le tiers de ses engrais fertilisants pour son modèle agricole absolument vital pour son économie, tout ça joue dans une forme de réelle politique qui aboutit à atténuer un certain nombre de critiques vis-à-vis de ces pays-là. Le Brésil, de ce point de vue-là, dans une position assez classique de pays, à l'inverse, comme la France ou d'autres, qui peuvent, avec d'autres pays où il y a des problèmes aussi de démocratie, de droits de l'homme, etc., parfois être moins critiques sur ces pays-là parce qu'ils ont de bons rapports avec eux. Bon, ça, c'est le jeu de la diplomatie réaliste.
Le jeu, effectivement, de la diplomatie que même la France, effectivement, observe dans certains cas. Merci beaucoup, Christophe Ventura. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et responsable du programme Amérique latine et Caraïbes. Dans quelques secondes, nous serons avec Alexandra Delbo et ça sera avec science.